quartier
de vie.
Une émission proposée par Résonance Sonore.
Aujourd'hui, dans Quartier de vie, je vous présente le documentaire sonore « Dans le creux de nos histoires », réalisé par Yijin Kin et Mathias Guibaud. Comment se transmettent nos histoires migratoires ? À Marseille, des jeunes s'interrogent sur leurs ancrages et sur le creux de leurs origines. Cette hors-série de Quartier de vie, réalisée à Marseille, fait écho au travail de Résonance Sonore sur le territoire d'Occitanie et ainsi qu'à la série sur les chemins de l'exil, en rentrant dans l'intimité des personnes rencontrées, en questionnant les histoires migratoires et celles de l'exil. Regard croisé sur les différentes façons de vivre, de transmettre ou pas ses origines, entre fierté, rejet ou perte de repère, les jeunes se questionnent sur leur déracinement dû à l'exil familial, véritable quête identitaire et découverte parfois du pays d'origine jusqu'alors méconnu. Documentaire particulièrement intéressant que pour Yijin, réalisatrice de cette pièce sonore, c'est le moyen d'ouvrir la parole et la réflexion autour des héritages migratoires de notre société. Étant étrangère en France, elle constate que ce territoire est particulièrement multiculturel. Il est étrange pour elle que ces héritages riches soient un sujet peu abordé, peu valorisé. Elle nous confie elle-même d'avoir pratiqué l'auto-effacement de son héritage culturel pour se fondre dans la masse. Elle y revient. Dans cette pièce, elle a donc voulu comprendre auprès des jeunes de son âge en France comment ils vivent et assument ou pas leur héritage de métissage. Quant à Mathias Guibaud, réalisateur également de cette pièce, il apporte une composition singulière mélangeant musique et ambiance, permettant de se laisser porter par le récit.
Il faut que j'arrive à être claire, en même temps que c'est pas très très clair dans ma tête. Parce que justement, c'est une question d'identité en fait. C'est vrai qu'on parlait pas beaucoup de ça dans ma famille. Bon, j'apprends beaucoup d'éléments, de choses quand même, mais pas de l'histoire de ma famille.
J'ai l'impression que c'est toujours un peu nous qui avons aussi posé des questions à l'âge où on était capable de poser des questions. Et alors, quand t'es arrivée en France, maman, comment c'est ? En même temps, je pense qu'elle nous a donné, mais j'ai pas vraiment de souvenirs précis. Et je crois que papa, le fait d'avoir de parler beaucoup du Sénégal, effectivement, c'est les seuls souvenirs qu'il a. Et en même temps, je pense que le fait de ne pas parler de l'Asie, il y a un truc aussi, où il ne sait pas, mais aussi ça le met mal, malaisé de nous parler d'un truc qu'il ne connaît pas.
Que ce soit par rapport à son parcours ou par rapport à sa propre histoire, de toute façon, mon père, il est assez mutique et tout ce que je sais de lui, quasi, c'est ma mère ou ma belle-mère qui me l'a raconté. Donc ça veut dire qu'il en parle quand même avec elle ou qu'il en a parlé dans le passé avec ma mère. Mais de façon générale, de toute façon, mon père, il est assez mutique. En tout cas, pour ma culture burkinabé, pardon, parce que si on parle de la culture de ma mère, la culture d'oromoise, on va dire, elle a pris beaucoup de temps pour me parler de tout ça, mais du coup, que ce soit des histoires familiales de ma famille française ou de ma famille burkinabé aussi, quoi.
Enfin, j'ai grandi avec ma mère. J'ai chez ma classique, parents divorcés, du coup, mon père, j'ai beaucoup plus... Enfin, j'étais avec ma mère, et mon père nous récupérait un peu quand il voulait. Donc j'ai quand même grandi avec ma mère, et c'était elle qui était là dans le quotidien, et c'est bizarrement celle qui nous a le moins transmis, je peux pas dire ça, mais... En tout cas, j'ai moins senti la transmission qu'elle faisait. Par contre, mon père, qui est une personne extrêmement bavarde, ou en tout cas qui adore qu'on l'écoute, mais vraiment en mode orateur, le patriarche, on écoute ses histoires, etc. Ouais, ça par contre, mais on y pense avec ma sœur, il faut que je fasse un répertoire, un livre de contes des histoires de mon père.
Il n'y avait pas de non-dit, il n'y avait pas de secret, il n'y avait pas de... On était conscients de toutes les difficultés que mes parents et ma famille avaient subies, que toutes les difficultés que ça engendrait dans le présent, toutes les conséquences. C'est qu'on n'a pas été dans l'interrogation sur nous-mêmes. On sait ce qui s'est passé, on sait pourquoi, on sait... Il n'y a pas de mystère, en fait.
après, franchement, je sais pas si ça te le fait pour toi, mais porter des prénoms racisés, ben, en fait, tu peux pas... T'es obligé de te rendre à l'évidence, quoi. Tu peux pas le cacher, tu peux pas... Ouais, donc oui, bien sûr que ça m'a aidé. Comme je te disais, c'était une fierté. Enfin, je sais pas si c'est les Algériens qui sont... C'est un peuple fier, pour ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été une grosse fierté.
J'ai l'impression d'être dans une situation un peu particulière en plus, qui est que je suis pas racisée. Enfin, en tout cas, ça vient pas à l'esprit des personnes, des gens, quand ils me rencontrent. En revanche, mon nom l'est, mon prénom et mon nom aussi. Et donc, même à l'endroit où je voudrais ne pas en parler, bah, la discussion, elle vient. Et j'ai toujours été mal à l'aise.
Regardez, moi, je m'appelle Romain. Ma sœur s'appelle Marion. On a tous les deux des prénoms afghans derrière, mais on sait pourquoi on s'appelle Romain et Marion. Pas parce que mes parents, ils étaient en kiff sur les prénoms, non. C'était juste parce que... Parce qu'ils voulaient nous donner des prénoms français, parce qu'ils savaient que... Bah, que ça nous aiderait. Moi, je pense que si je m'appelais... Moi, mon deuxième prénom, c'est Yama. Moi, je suis amoureux de mon deuxième prénom. J'adore mon deuxième prénom. Toute ma famille afghane... Ou les Afghans que je suis amené à côtoyer de temps en temps, quand on parle afghan ou quoi, on m'appelle Yama. Et j'adore ça. Mais je pense pas que ma vie elle aurait été la même si je m'appelais Yama.
Déjà, je pense que très grande partie de ma vie, j'avais pas du tout conscience de ce que ça voulait dire d'être issu de l'immigration. Alors la colonisation, j'ai aucune idée de ce que c'était. Et donc, tu veux, moi, j'ai grandi dans mon environnement. C'était complètement la normalité que d'avoir des gens qui étaient de toutes les couleurs, toutes les origines. Et c'était limite une fierté et un jeu entre nous, quoi, de se définir vis-à-vis de « je suis d'origine algérienne » ou « je suis d'origine africaine ». Enfin, c'était vraiment quelque chose qu'on revendiquait, quoi. Très tôt, on a revendiqué sans vraiment comprendre d'où ça venait, quoi. Je pense que ça a commencé même avant que je naisse. Ma mère, elle est venue accoucher... elle était enceinte de moi, elle est venue accoucher en France parce que l'accouchement de ma sœur s'était mal passé en Algérie. Donc, même avant de naître, j'avais déjà une histoire de mouvement, une migration imprégnée en moi, j'en suis convaincue, tu vois. Et après ça, on est arrivé en 92 à Marseille. J'avais 2 ans. Je me rends compte aujourd'hui, à 32 ans, qu'est-ce que ça a dû être de débarquer avec tes deux filles sous le bras. Tu redébarques, tu réemménages avec ta mère, parce que ma grand-mère vivait déjà à Marseille. Tu réemménages chez ta mère avec tes deux filles, tu recommences ta vie de zéro. T'as laissé là-bas ton appart avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. T'es arrivé avec je sais pas combien de valises. Et vas-y, on y va, c'est parti. Je suis convaincue que j'ai aucun souvenir, mais j'ai dû être imprégnée de l'épreuve que ça a dû être pour ma mère, quoi. J'ai des images, tu vois, des choses que je comprenais pas quand j'étais petite, mais qui aujourd'hui je les comprends un peu mieux. Par exemple, c'est assez intime, mais ma mère, elle parlait seule. Quand on rentrait de l'école, elle venait nous chercher chez ma grand-mère, on rentrait à la maison, et elle avait toujours ce moment où elle était dans la cuisine, elle fumait sa cigarette, elle buvait son verre de vin. Et c'était le moment où tu savais qu'il fallait pas que t'ailles lui parler parce qu'elle est engueulée, ou genre dans la. Enfin, maintenant je sais que c'était son moment et qu'il fallait qu'elle décompresse, mais. Et elle parlait. Elle se parlait à elle-même. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle se disait, elle me le dira jamais. Mais je pense que c'est hyper symptomatique de ce que ça a dû être comme souffrance pour elle, quoi. Elle était seule.
Donc ma mère, elle est pas marseillaise à la base. Elle est née dans la Drôme, à Die. Elle est donc drômoise d'une famille d'agriculteurs qui font de la clairette de Die, tu vois. Et mon père, il est né à Bingerville, en Côte d'Ivoire, mais il a grandi au Burkina. Il est franco-burkinabé, la double nationalité. Avant leur divorce, donc quand j'avais 6 ans, on est beaucoup allé au Burkina tous les ans. Mon frère, entre-temps, est né. On a continué à aller au Burkina avec mon père. Mais même des années après, ma mère a dû y aller encore 2-3 fois après leur divorce. Donc je pense que mon rapport à mes origines, il est aussi super présent dans ma vie. Aussi parce que ma mère, ça a été très 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 important pour elle et ça l'est encore aujourd'hui, ce lien avec le Burkina.
Dans l'identité, mon père... comment dire, se définissait comme turc, d'origine arménienne certes, mais turc, et donc se définissant plutôt comme turc et du côté de ma mère, se définissant carrément arménien malgré leur implantation entre guillemets ici en France, à Marseille, etc. Il y avait quelque chose, je pense, d'identitaire là-dedans qui faisait que mon grand-père maternel, donc, a développé une sorte de haine contre mon père. Et je pense qu'il y a aussi de ça qui a joué dans est-ce qu'on parle ou est-ce qu'on parle pas de l'histoire. Et donc, je grandis un peu dans ce paradoxe qui fait que même ça fait très peu de temps que je peux parler en fait, de tout ça.
On a une mère qui est iranienne et qui a, elle, la chance de connaître son passé, ses parents, ses grands-parents, ce qui n'est pas le cas de notre père. Donc on a été très vite bercé par le passé familial, maternel. Même si on a eu la chance de connaître le passé de papa, mais malheureusement bien plus tard. Mais oui, on est très familière avec ça, et encore aujourd'hui, on continue à en apprendre tous les jours.
Et donc, effectivement, on a eu les repas, on a eu des fêtes un peu de temps en temps quand même, enfin iraniennes, enfin vraiment perses. Et du côté de papa, papa est adopté par des Français à Hanoï, donc à l'époque de l'Indochine française. Et donc, on n'a aucune connaissance de la situation de l'adoption. C'était très mystérieux, parce qu'on ne sait pas trop de quelle manière ça s'est fait. Du coup, il y a plein de... Des fois, on lui lit l'horoscope, parce qu'il est né en février, et on lui lit l'horoscope, et à chaque fois, il répond la même chose. Il dit, mais non, mais on ne sait même pas si je suis Verseau, parce qu'en fait, peut-être rien n'est vrai.
Il y a aussi beaucoup de ce fait-là qu'il y a une génération qui tait le malaise, qui tait le traumatisme, espérant qu'il s'annule, qu'il disparaisse, et que donc on va s'intégrer, là, comme ils avaient dit, que nous, non, on ne sera pas des sauvages, on ne sera pas des barbares, et donc on ignore volontairement ce qui s'est produit. Et ça fait des creux d'histoire dans les générations, et des fois des générations qui ont du mal à dialoguer. En tout cas, moi je l'ai vécu, et aussi en entendant les expériences d'autres personnes. Cette rupture de parole.
Je pense qu'il y a une transmission qui a été faite parce que j'ai des traits de caractère qui sont propres aux Afghans, je pense. Je l'ai vu, enfin je m'en suis... je l'ai toujours pensé. Mais la fois où ça m'a rassuré et j'ai été le plus fier, un jour en discutant avec mon oncle, mon grand-oncle, donc du coup il m'a dit un truc dont j'étais super fier et que ça m'a touché et rassuré, il m'a dit « T'as beau jamais être allé en Afghanistan, moi quand je te parle, quand je te vois, quand je te vois te comporter et tout, je vois un Afghan, quoi. Je vois pas un Français, je vois mon petit-neveu, on va dire, ouais, c'est ça, je suis le petit-neveu de mon grand-oncle, mais je vois un Afghan. » «
j'ai vraiment extrêmement de chance que mes parents nous aient parlé très tôt, nous aient raconté très tôt notre histoire. Il y a aussi ce côté où, enfin, je parle pas arabe, je parle pas ni arabe ni le kabyle. En revanche, moi, tous mes étés, je les passais au bled. Et il y avait cette rigueur d'aller en Algérie chaque été, et avec mon père et avec ma mère. Et en fait, quand t'es enfant, tu t'en rends pas compte, mais c'était essentiel d'avoir un pied dans chaque pays. Et la transmission, elle a commencé là, dans mon enfance.
J'ai fait un voyage jusque là-bas. Et c'est particulier. Et je pense que ça a commencé là, en fait. Que j'ai compris qu'il y avait une histoire à savoir. Parce que quand on va là-bas, déjà on voit d'où on vient. Et en fait, c'est loin. C'est que mon père, en fait, il est arrivé ici, il a fait ses études et tout ça, et puis il n'est pas rentré pour faire son service militaire. Et donc, plus ou moins, il était déserteur. Donc il n'a jamais remis un pied, à partir de ce moment-là, en Turquie. Et ça, ça doit jouer. Enfin bon, ça doit... Enfin, je pense que ça infuse tout un tas de choses aussi. Et donc, on n'a pas été en Turquie jusqu'à ce que... Et moi, j'y suis allée seule à mes 14 ans. Donc, il m'envoie là-bas et j'ai été accueillie par ses amis, en fait. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, une semaine chez l'autre. Et je suis la première des 5 enfants de mon père à être allée en Turquie, en fait. Je me rappelle juste que j'ai ressenti une familiarité incroyable. Mais je me rappelle aussi, donc, en arrivant à Istanbul la première fois, donc cet état familier, etc., et où je rencontre donc ses amis. Et en fait, en rencontrant ses amis, j'ai la sensation de rencontrer aussi mon père. Et je me dis, mais c'est... Je sais pas comment dire. Et c'est comme si cette vie... En fait, il en parlait un peu, mais comme si cette vie, elle n'existait pas dans son discours, dans son langage. Enfin, et je découvre, en fait, des amis qui parlent de lui. À l'époque, c'est eux qui m'ont raconté comment a vécu la mort de... Enfin, comment mon père a vécu la mort de sa mère. Enfin, c'est... Je découvre ça avec eux, je découvre beaucoup d'autres histoires. Je découvre un père rigolo, enfin tu vois. Il est pas là en plus, enfin il est pas là. Il est là dans le discours et dans le langage de ses amis. Et je découvre un père farceur, rigolo, hyper sensible. Je me dis, attendez, vous parlez de qui là? Parce que en fait, je ne connais pas la personne dont vous parlez. Ouais, ce que je trouve particulier, c'est que ça se passe sans mon père.
Mon souhait, mon rêve, c'est de mettre des images sur les histoires que m'ont raconté mes parents. Voilà. Ce qui fait partie de moi, c'est ça, en fait. C'est tous ces trucs en attente. Des trucs en attente que j'aimerais un jour combler. Ouais, c'est ça, c'est des trucs qu'il faut que ça... C'est comme un trou, comme quelque chose de vide que j'aimerais combler, en fait.
Notre voyage en Iran, où c'était vraiment un pèlerinage, et c'était cool, je me souviens exactement de ce moment où on est allé chez le tonton de ma mère, du côté de ma grand-mère. On y est allé, on l'avait vu, mais on était bébé. Et en fait, maman nous a fait monter avant dans les escaliers. Donc en fait, on allait vraiment se retrouver face. Normalement, il y a toujours maman ou ma tante devant. Et là, on était vraiment toutes nues devant quelqu'un. Salut. Et on ne savait pas dire. Alors, du coup, on a dit des mots vite fait qu'on savait dire. Genre, on est les filles de machin en iranien. Et en fait, tout, il nous a pris une par une dans les bras. Parce qu'on ne comprenait rien à ce qu'on disait. C'était sûr qu'on n'allait pas pouvoir communiquer. Mais il nous a pris chacune dans les bras, en nous sentant comme ça dans le cou. Et du coup, toutes, on a chialé les unes après les autres. Ça a été une... Et en fait, il y avait ce truc-là de... c'est pas grave, en fait.
La grosse différence, c'est que bon, ma mère, c'est un peu plus complexe, mais elle est algérienne. Enfin, elle est franco-algérienne, mais on peut prendre l'exemple de mon père pour expliquer ça. Mon père est algérien. Il n'a pas la nationalité. Il n'est pas français. Si tu lui en parles, il va te dire « je me sens français, enfin, je parle en français, je débat en français, je lis en français ». Mais je crois que fondamentalement, mon père est algérien. Et effectivement, leur histoire, c'est une histoire de migration. Moi, mon histoire, en fait, elle est issue de ça, mais mon mouvement, il se situe ailleurs, en fait. J'ai pas quitté un pays pour arriver dans un autre, en fait. J'essaie de faire des passerelles entre les deux. J'essaie de construire des ponts, plutôt, tu vois. Rien que leur énergie et leur mouvement étaient complètement différents du mien. Ça allait d'un point A à un point B. Moi, j'ai l'impression que je fais plus un cercle, quoi. C'est cyclique. Donc, je te dis, c'est une quête permanente. Et c'est parce qu'elle est permanente et parce que je me suis tout le temps en mouvement intellectuel et physique aussi vis-à-vis de ça que je suis apaisée et que j'ai pas de questions fondamentales, existentielles sur d'où ma famille vient et pourquoi est-ce qu'elle a... Elle est partie, parce que je le comprends tout à fait, et il n'y a pas de souci. Moi, mais mon questionnement aujourd'hui, c'est plus pourquoi... ça va dans l'autre sens, pourquoi ce côté colonial. Pourquoi est-ce que la France, c'est en fait l'Occident, finalement. Comment est-ce qu'ils ont pu se dire un jour qu'en traversant une mer et en arrivant sur un territoire nouveau où il y avait des humains, ils ont pu les considérer comme des sauvages et se dire qu'ils allaient les éduquer. Moi, c'est... C'est là où j'ai beaucoup d'incompréhension et encore pas mal de colère. Et c'est là où j'essaie de comprendre.
Des deux côtés, une certaine forme de souffrance à se dire, à exister, à s'identifier. Très très complexe, mais je pense qu'il y a des questions que j'ai pas. En fait, c'est malgré mon âge, peut-être, c'est très peu élaboré. Et en plus, dans mon histoire, en tout cas dans mon éducation, quasi un empêchement de considérer que ça a un impact sur moi.
Nous, c'était pas pareil. On est né ici, on vit ici, les choses, le moule était déjà fait, quoi. C'était déjà construit autour de nous. Et puis je viens de Marseille, donc à Marseille, je suis pas le seul. Ce qui peut-être nous a aidé, entre guillemets, ou alors peut-être pas nous a aidé, mais qui a fait qu'on s'en est moins préoccupé. Comme j'ai dit, en fait, moi, il y a énormément de choses qui sont tristes, qui nous ont fait souffrir, qui nous ont attristés, qui nous ont préoccupés. Mais le fait de se dire qu'on est à Marseille, qu'on n'est pas les seuls, qu'on a grandi avec des gens qui ont plus ou moins vécu des choses, on a chacun notre histoire, on a chacun notre truc, chacun notre vie, tout ça, bien sûr. Mais on n'a pas, on n'est pas seul, quoi. C'est ça aussi. C'est aussi Marseille, en fait. On n'est pas seul, en fait.
Ça, c'est une richesse de fou. Ça t'ouvre l'esprit de malade, quoi. Tu es obligé d'être sans cesse dans l'apprentissage de l'autre. Et en fait, ouais, l'apprentissage de l'autre. Je crois qu'il y aurait beaucoup plus de tolérance et de compréhension de l'autre, en fait, sans, ouais, ce qui correspond à de la tolérance, si on s'amusait tous un petit peu à chercher d'où on vient. Parce qu'on vient, on vient jamais vraiment de là où on est exactement au moment T, quoi.
C'était Dans les creux de nos histoires, une création de Hee-jin Kim, co-réalisée avec Mathias Guilbeault. Avec
Anaïd, Jayhan, Gosh Gagarian.
Zara, Igo.
Kahina, Jahnin.
Hoide, Vadario, Puligo, Koleston, Daneshvor.
Et
Romain, Yama, Neda, Rafor.
Merci encore à eux.
Quartier
de vie.
Retrouvez son podcast sur
www.resonance-sonore.fr.